Ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU, en tant que correspondant dans les années 80, il a notamment couvert les conflits au Soudan et dans les pays voisins. Via Skype de Paris, Roland Marchal, membre du Centre de recherche internationale de Sciences Po, ses travaux portent particulièrement sur les guerres civiles en Afrique subsaharienne. Également de la capitale française, nous rejoint Mohamed Nagui, rédacteur en chef de Sudan Tribune, un journal indépendant publié en ligne. Mohamed Nagui, je commence par vous. Faisons d'emblée le point sur la situation ce jeudi 20 avril. D'après les dernières informations dont vous disposez, où en est le conflit dans votre pays après le déclenchement des hostilités samedi dernier entre les paramilitaires menés par le général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée régulière que dirige le général Abdel Fattah Bourhan?
D'après ce que j'ai appris tout à l'heure, les combats continuent d'avoir lieu à Khartoum. Personne ne saura dire qui gagne, qui ne gagne pas, parce que tout le monde est cloué, j'allais dire, confiné chez eux, et personne n'ose se marcher dans les rues. Du coup, on est vraiment juste au bruit des balles, c'est-à-dire aux détonations des missiles et des balles. Enfin, en tout cas, il y a personne ne saura où on est, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens se contentent de lire les communiqués qui sont certainement biaisés, mais qui sont lancés par les belligérants, sans aucun moyen de les vérifier. C'est ça la situation actuellement à Khartoum. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des combats, voilà.
Oui. Alors, Bourhan et Daglo, deux généraux qui se disputent donc le pouvoir après avoir pourtant perpétré conjointement le coup d'État de 2021. Roland Marchal, comment en est-on arrivé là?
Écoutez, je crois que la question centrale, c'est moins la compétition entre ces deux généraux que la difficulté de mettre fin réellement au régime d'Omar el-Béchir, donc qui a régné de 1989 à 2019, et de reconstruire une véritable arène politique et une société politique au Soudan. C'est sans doute à cause, c'est par cette difficulté de redonner le pouvoir aux civils que ces deux généraux, donc commandants de deux forces de nature différente, hein, l'armée nationale soudanaise d'un côté et une force paramilitaire initialement construite à partir du conflit au Darfour, c'est dans cette difficulté-là que ces deux généraux ont trouvé les moyens de jouer un rôle cardinal, d'abord en 2019 pour démettre Omar el-Béchir, mais aussi ensuite négocier pendant de longs mois le maintien de l'essentiel de leurs prérogatives et d'une certaine façon un gouvernement civil qui est resté toujours faible et qui toujours dépendant de l'autorité militaire. Et puis en octobre 21, les deux ont été capables de mener un coup d'état militaire pour même se débarrasser de ce gouvernement civil. Si vous voulez, ce qui aujourd'hui est pour moi important, c'est que on peut regarder les événements tragiques et brutaux qui se déroulent au Soudan à la fois comme une compétition entre deux généraux qui ont des stratégies politiques différentes pour survivre dans les années qui viennent. L'un, maintenant un scénario à l'égyptienne où l'armée reste le pilier essentiel derrière le pouvoir et lui-même comme chef de l'armée s'apprêtant à jouer le premier rôle, non seulement pendant la transition, mais après, où Hemeti, jouant une carte beaucoup plus contournée en essayant d'apparaître comme un homme politique, de changer un peu d'uniforme et de s'inscrire dans une arène plus civile, parce qu'il sait que le maintien, et c'est ça l'enjeu, comme le rappelait votre collègue dans son reportage, que le maintien du statu quo sur son statut signifie à terme l'élimination des forces de soutien rapide. Donc c'est une histoire tragique, mais n'oublions pas que ce qui est stratégique dans cette histoire, au-delà de la brutalité des combats, c'est la difficulté de reconstruire un régime civil au Soudan.
Jean-Victor, nous venons de l'entendre, le bilan humain ne cesse de s'alourdir, tandis que des milliers d'habitants continuent de fuir sous les bombes. Quel est l'impact de ce conflit sur la population soudanaise?
L'impact est absolument tragique. D'abord, la capitale Khartoum, il est difficile d'en sortir. Il sera même peut-être bientôt difficile de s'approvisionner. Mais au-delà de Khartoum, les combats s'étendent aussi au Darfour et dans d'autres villes. Comme vous le savez, le Soudan, c'était, avant l'indépendance du Sud-Soudan, le pays le plus étendu d'Afrique. Maintenant, il est le troisième pays le plus étendu, après l'Algérie et la République démocratique du Congo. Mais l'impact que cette guerre va avoir sur les populations soudanaises sera imminent. Mais à court terme, on peut aussi envisager un impact très important sur les populations des pays avoisinants. Parce que le Soudan est un pays si stratégique, simplement parce qu'il a des frontières, non seulement avec des États importants comme l'Égypte, mais aussi avec des pays encore fragiles comme la République centrafricaine ou le Sud-Soudan. Regardez la carte du Soudan et vous comprendrez que cette conflagration ne va pas avoir des conséquences seulement à l'intérieur du pays, mais aussi bien à l'extérieur dans les pays voisins. Le Soudan a une frontière avec la Libye. La Libye n'est pas encore sortie de son conflit. Le Soudan a une frontière avec le Tchad. Et le Tchad, il y a encore des questions importantes à régler, pas seulement par rapport au Darfour, mais aussi par rapport au conflit interne lui-même au Tchad. Et puis le Soudan a une frontière avec le Sud-Soudan, État encore fragile qui a obtenu son indépendance il n'y a pas si longtemps. Le Soudan a aussi une frontière avec l'Éthiopie et l'Érythrée. Et on sait que l'Éthiopie sort d'un conflit récent avec le Tigray et que, avec la frontière érythréenne et éthiopienne, on sait que ces deux entités ont longtemps combattu le régime de Mengistu. Il y a donc, comme ça, beaucoup de comptes à régler. Donc, si véritablement on doit comprendre l'implication des États africains et de la communauté internationale, c'est simplement pour bien saisir qu'une conflagration du Soudan et une détérioration de la situation, si on peut même parler comme ça, va affecter non seulement les populations soudanaises, mais beaucoup de populations qui sont voisines de ce pays très important, de ce peuple très charmant, et le peuple soudanais.
Et maintenant, deux commentaires à Facebook. Archiduc Théodore de Djamena au Tchad. Ce qui se passe actuellement au Soudan est la résultante du vol par les militaires de la victoire du peuple soudanais lors de la révolution qui a chassé Omar el-Béchir, que le pouvoir revienne à un civil. Lasga Sek de Dakar au Sénégal. Le peuple soudanais victime des dirigeants de son armée qui sont plein d'ambition et assoiffé de pouvoir. Et voilà pour ces deux commentaires. Chers amis fidèles de la VOA, n'allez nulle part ailleurs. La suite de Washington Forum avec nos invités après cette courte pause.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans vous et nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Forum que vous propose VOA Afrique. Nous braquons les projecteurs sur le conflit meurtrier au Soudan. C'est un sujet que nous décortiquons avec trois invités. Nous les retrouvons avec grand plaisir maintenant en direct de New York. Jean-Victor Nkolo, qui a travaillé pendant longtemps à l'ONU. Il a notamment été le porte-parole de la mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, deux pays voisins du Soudan. Via Skype de Paris, Roland Marshall, membre du Centre de Recherche International de Sciences Po, il a publié un nombre d'ouvrages et d'articles sur les conflits en Afrique. Également de la capitale française, Mohamed Nagui, rédacteur en chef de Sudan Tribune, un journal indépendant publié en ligne. Mohamed Nagui, comment pouvez-vous résumer le parcours des deux belligérants, le commandant de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, le patron des forces de soutien rapide? Est-ce des hommes capables d'aller jusqu'au bout dans cette guerre ouverte, d'après vous, quitte à mettre le pays à feu et à sang?
À vrai dire, déjà, on voit très bien que les deux ne sont pas prêts à respecter le cessez-le-feu proposé de 24 heures. Et chacun, il joue par rapport à ses intérêts, à ses calculs. Le général Burhan, je crois que personnellement, je crois qu'il est le premier à ne pas vouloir arrêter le conflit, parce qu'il compte sur l'épuisement des miliciens ou de la force paramilitaire de Hameti, et comme il continue de faire venir, c'est-à-dire d'épuiser de son réservoir en Provence des différentes garnisons de l'armée, donc il veut continuer à mener la guerre, même s'il y a des civils qui meurent. Et Hameti, de son côté, il cherche à profiter de la mobilité de ses troupes pour conquérir des positions et faire de la propagande, parce qu'il joue beaucoup aussi sur les communiqués qu'il diffuse d'ici et là, et qui des photos qu'il publie de ses forces ici, enfin dans différents sites stratégiques. Mais cela étant dit, je crois que les deux sont pas prêts à arrêter les combats.
Donc, comme disent certains observateurs, c'est un peu comme une lutte existentielle pour les deux. Mais maintenant, rapidement, si vous pouvez, Mohamed Nagui, qui sont leurs alliés, pour ne pas dire leurs ennemis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays?
En fait, à l'intérieur du pays, pour l'instant, personne ne veut prendre position par rapport à l'un ou l'autre. Déjà, par rapport à l'extérieur, il y a des accusations et des allusions qui sont faites ici et là. C'est-à-dire, il y a des gens qui pointent du doigt au Centrafrique, parce que là-bas, ils disent qu'il y a des gens qui sont capables de soutenir et que le régime même de Centrafricain, il a intérêt à ce que Hameti continue, parce que c'est l'allié de Wagner, etc., etc. D'un autre côté, et ça, c'était très fort aussi, hier, on a parlé de l'Érythrée comme étant un potentiel futur allié de Hameti. Mais pour l'instant, les Érythréens ne sont pas montrés ou n'ont pas fait le moindre geste. Il y a aussi les accusations pour Haftar, mais pour lui, il vient de les démentir. En fait, il vient de faire tout à l'heure un communiqué, il a démonté toute implication dans le conflit soudanais. Cela étant dit, ça reste la configuration. Il ne faut pas oublier aussi l'Égypte, n'est-ce pas, qui est aussi accusée d'avoir intervenu dans le conflit et qui serait disposée, parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter Hameti à la tête de pouvoir au Soudan. Oui. Je crois qu'aussi les Chadiens ne sont pas prêts à accepter Hameti, même s'il y a une partie de sa tribu là-bas, mais le président Mohamed Debi Kaka ou Kaka entre guillemets, lui, il n'est pas prêt à accepter la présence de Hameti au pouvoir, parce que ça risque à long terme à avoir des incidences dans la stabilité de son pays.
D'accord. Roland Marshall, nous avons eu l'impression que vous vouliez réagir par rapport à ce que vient de dire Mohamed Nagui. Rapidement, si vous pouvez.
Non, simplement, je crois qu'il y a Il y a des États qui peuvent, il y a des États ou des acteurs armés qui peuvent agir ou réagir, mais il y en a d'autres qui ne le peuvent pas. Citer la République centrafricaine simplement parce qu'il y a la société Wagner est un peu ridicule. La Centrafrique est un État enclavé. Les munitions et le matériel militaire qui est là-bas doit servir pour essayer de contenir les mouvements armés qui sont dans une bonne partie du pays. Donc c'est pas eux qui vont fournir une aide militaire significative à Hemeti ou à qui que ce soit. Par contre, effectivement, il y a eu deux accusations assez précises dans les derniers jours, assez rapidement sur l'Égypte, parce que il y a la thèse officielle est celle de manœuvres en commun et de formation militaire. Néanmoins, de nombreux témoins ont vu des avions égyptiens intervenir dans des bombardements, notamment à proximité de Port-Soudan, et donc l'Égypte est partie prenante, et c'est un État, c'est en plus un État qui produit des armes et des munitions, donc il a une vraie capacité de soutien, et politiquement il est extrêmement proche de Burhan. Comme j'ai dit, Burhan c'est un peu le scénario égyptien, et il y a des liens relativement symbiotiques entre les deux. Haftar représente, si vous voulez, cette menace de l'informalité, c'est-à-dire un acteur armé non étatique. On parle de deux avions qui auraient été tracés, l'une d'une base de l'armée nationale libyenne et l'autre d'une base contrôlée par Wagner, qui auraient atterri sur un aéroport militaire alors contrôlé par les forces de défense rapide. Vrai ou pas vrai, enfin, quels que soient les démentis, il faudra attendre quelques jours ou quelques semaines pour avoir la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, l'appui qui pourrait être fait à Hemeti de la part d'un chef de guerre comme Haftar sera toujours moindre que celui apporté par un État. Et les seuls qui pourraient éventuellement prendre position en faveur d'Hemeti, vous parliez d'Érythrée, mais on ne voit rien pour l'instant. Vous parlez d'Éthiopie, on pourrait parler d'Éthiopie, on ne voit rien. Et les États du Golfe, à mon avis, sont comme la Russie, c'est-à-dire que fondamentalement, ils regardent la bataille et attendent qu'un vainqueur émerge de ce chaos sanglant pour décréter qu'ils ont toujours été avec
nous. Oui, Jean-Victor, nous savons qu'il y a
des commentaires.
Alors, oui, rapidement, mais
je voulais dire que quand on parle de Centrafrique, on parle de Wagner en réalité. Personne ne parle des Centrafricains comme étant capables de fournir une aide quelconque. C'est vraiment très important parce qu'ils sont présents là-bas, ils sont les alliés de Hemeti, ils profitent de ces gens, ou ils profitent de Hemeti pour la transportation de leur logistique et toute autre chose. Donc, de ce fait, il y a une alliance de fait et ils ont un intérêt direct. Mais effectivement, le gouvernement centrafricain n'est pour rien dans cette affaire.
Ouais. Jean-Victor, nous savons qu'il y a...
Les technologies viennent du Soudan, c'est-à-dire c'est un pays enclavé, donc il ne faut pas penser qu'on puisse facilement, c'est plus facile de le faire à partir de la Libye ou même d'ailleurs que de le faire à partir de la Centrafrique. Enfin, bon, il n'y a pas les infrastructures pour réellement un appui militaire significatif.
Ouais. Parlons de la médiation maintenant, Jean-Victor. Nous savons qu'il y a une réunion prévue aujourd'hui entre les patrons de l'ONU, de l'Union africaine et d'autres organisations régionales. Comment la médiation régionale et internationale peut-elle aider à amener ces deux généraux à la table des négociations pour cesser le feu immédiat maintenant et à long terme pour résoudre la crise soudanaise qui perdure depuis le putsch de 2021 ?
Cette question est vraiment très importante et véritablement d'actualité. Parce que pour qu'une médiation internationale puisse être effective, il faudrait dans un premier temps que des émissaires ou des chefs d'État de la sous-région puissent arriver au Soudan. Or, la question est centrale, celle du contrôle de l'aéroport de Khartoum. L'aéroport de Khartoum qui se trouve au centre-ville, dans la capitale. Et si les émissaires ne peuvent pas arriver au Soudan pour parler aux uns et aux autres, cela sera très difficile. Donc il faut véritablement espérer que les cessez-le-feu vont être respectés et qu'il y aura une accalmie et surtout que quelque chose pourra être fait à propos au sujet de l'aéroport. Mais je voudrais revenir sur les implications ou les enjeux internationaux pour simplement, dans le contexte historique, montrer ô combien important le Soudan est. Ça date de l'histoire parce que ce peuple formidable qui a combattu pour son indépendance depuis le temps de Al-Mahdi est aussi, en plus des pays qui sont
voisins. Je vous entends pas, moi, je n'ai pas de...
la Libye, le Tchad, la RCA, le Sud-Soudan, l'Égypte, etc., l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan fait aussi face à la mer Rouge du côté de Souakin. Et les soldats soudanais avaient été cooptés pour aller combattre au Yémen par l'Arabie Saoudite. Et on sait que depuis l'administration Clinton-Bush et d'autres administrations américaines, le Soudan est devenu très important, surtout avec les événements de septembre ici aux États-Unis, parce que Osama Bin Laden avait dans un premier temps établi une base à partir du Soudan. Donc le Soudan est devenu un enjeu important, enjeu où, par exemple, les Russes voudraient maintenant faire des bases sur la mer Rouge pour contrôler les routes maritimes, très important. Wagner impliqué, les Américains ont aussi des intérêts. Ce qui est triste dans tout cela, pour tous ces enjeux, c'est que la richesse du Soudan, qui a été réduite d'un quart parce que, en devenant indépendant, le Sud-Soudan a enlevé au Soudan une grande partie du pétrole qui était la manne essentielle. Maintenant, les dirigeants, les militaires qui sont en train de se combattre, entre eux, sont en train de se disputer les restes d'un Soudan qui aurait dû, qui aurait pu et qui peut encore être très riche. Le Soudan peut nourrir l'Afrique. C'est un pays avec une terre très fertile. C'est le pays du Nil. L'agriculture est la chose la plus importante. Mais maintenant, ça va être difficile avec une telle crise. Le Soudan a un potentiel énorme. Le Soudan a aussi des ressources humaines formidables. Oui. Ce sont des gens bien formés. On l'a vu au début avec cette image de l'ancien Premier ministre, M. Abdel Hamdok, un économiste de haut vol qui a travaillé à la CEA à Addis Abeba. Mais il ne peut pas oublier le fait que sans le retour des civils au pouvoir, le Soudan va rester empêtré dans des crises entre hommes forts qui contrôlent des pans de l'armée. Je dois aussi finalement dire que avoir investi dans le passé dans le financement des milices ou en fermant les yeux sur les activités des milices, le Soudan en paye aujourd'hui le prix. On a ce qui est véritablement une milice, comme les forces de soutien rapide, 100 000 personnes bien armées. Moi, j'ai rencontré il y a 35 ans déjà au Soudan les milices Maharalin, par exemple. Il y avait toutes sortes de forces armées qui faisaient beaucoup de mal dans les régions, dans les villages, dans les savanes, dans les contrées. Le Soudan doit redevenir un État républicain, un État révolutionnaire, je dirais, un État véritablement africain et arabe, comme il a toujours été. En réalité, c'est véritablement une question de gouvernance pour que ce pays joue le rôle moteur, le rôle premier qu'il occupe de par sa situation géographique et stratégique.
Oui, alors très rapidement, deux autres commentaires à Facebook. Charles Bazema de Ouagadougou au Burkina Faso, triste de voir des gens qui sont censés protéger un pays avec sa population et qui sont formés, armés, habillés avec l'argent du contribuable, se battre en pleine capitale pour leur propre intérêt personnel et égoïste en tuant les habitants, en détruisant les infrastructures. C'est dommage. Avec ce comportement, comment voulez-vous que nous, les Africains, soyons respectés ailleurs? Et Yao Marcelin Kofi d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, la place des militaires n'a jamais été au palais présidentiel. Alors très rapidement, pour terminer, Mohamed Nagui, après le soulèvement populaire qui a mis fin au régime du dictateur Omar El-Béchir en 2019, on en parlait tout à l'heure, les Soudanais ont eu l'espoir de voir les militaires confier le pouvoir un gouvernement élu par le peuple. Mais aujourd'hui, les généraux qui se déchirent pour demeurer aux commandes du pays ont-ils totalement anéanti cet espoir? Alors, je ne sais pas si Mohamed Nagui peut m'entendre. Non, il y a un petit problème. Et Roland Marchal, si vous pouvez peut-être répondre à cette question.
Écoutez, dire que la possibilité qu'il n'y aura pas de possibilité d'un régime civil, non, mais je crois que la voie va être singulièrement compliquée dans la mesure où d'une certaine façon l'existence de deux forces armées concurrentes laissait un tout petit peu d'espace aux civils et que cet espace va disparaître avec la fin à mon avis des forces de soutien rapide. Donc pas que les forces de soutien rapide soient spécialement populaire, démocratique et se comporte suivant le droit humanitaire de la guerre, mais simplement ça accroissait le champ, l'arène politique pour les civils. Bon, qu'est-ce qui va se passer à court terme, si vous voulez? Ça va dépendre un peu des conditions de la défaite ou de la victoire de, je pense, du général Burhan et de la capacité des internationaux à le mettre sous pression pour soit remettre sur les rails le processus politique qui a débuté en décembre dernier, soit pour initier quelque chose de plus rapide. Mais encore une fois, je pense que Burhan, vainqueur, c'est la fin.
C'est une actualité que nous allons suivre indubitablement. Washington Forum prend fin ici. Merci à nos invités. Un clin d'œil à toutes nos radios et télé partenaires. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide avec vous. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de la VOA. Take care.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande de